remporté par le Camerounais Pascal Siakam. Mais Oklahoma City a finalement renversé le match pour s'imposer 111 à 104. Prochain match mardi sur le parquet d'Oklahoma. Et puis enfin en football, c'est une curiosité mondiale qui attire bien des regards.
Radio G 101.5 FM.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour. Nous vous proposons la lecture de quelques extraits du dernier livre de David Fuenquinos, Tout le monde aime Clara. Ce livre traite de l'amour d'un couple, la rupture et leur retrouvaille au chevet de leur enfant. Alexis Koska est probablement un homme de 50 ans. Il lui arrive de se sentir vieux, il lui arrive de se sentir jeune. L'hésitation est le slogan de ses jours. Il a une fille de 17 ans qui s'appelle Clara. Avec sa femme, ils ont décidé de la prénommer ainsi par passion pour Clara et les Chic Types, un film qui ressemble à l'époque de son tournage 1980. C'est une année de désinvolture sensuelle. Il y a quelques mois, l'adolescente a été victime d'un grave accident. Rien n'est plus pareil pour Alexis. Certains de ses mardis sont devenus des jeudis. C'est dans ce contexte qu'il s'est inscrit à un atelier d'écriture. Jusqu'à présent, écrire lui paraissait une activité improbable, réservée aux dépressifs et aux illuminés. Il aimait plutôt son travail au sein d'une banque privée. Alexis était l'un de ses conseillers financiers dont on loue les qualités de gestionnaire et même les prouesses. Le drame a réveillé sa part artistique. En chacun de nous, paraît-il, sommeille l'inspiration. Dans un premier temps, il a songé à s'orienter vers la musique. Il se voyait avec une guitare, jouant ses airs préférés, accompagnant les fins de dîner au moment où plus personne n'a envie de parler. mais cela lui a semblé manquer d'intensité. C'était une bifurcation trop sage et qui ne demandait pas assez d'efforts. Il avait ensuite pensé à la peinture. Selon lui, c'est l'art suprême. Il s'est vu devant une toile vierge, l'air pénétré et le tablier moucheté de taches de couleur. Encore une fois, il s'est ravisé, se sentant quasi physiquement incapable de tenir un pinceau, comme si son corps désapprouvait cette nouvelle ambition, y voyant une arrogance déplacée. Restait l'écriture. Il s'agissait de mettre des mots sur des émotions, d'offrir à son imagination une sorte de vêtement concret. Il s'enthousiasma. « Oui, c'est ça, je vais écrire. » Telle était l'adresse de son nouveau désir.
En apprenant qu'Alexis s'était inscrit à un atelier d'écriture, Marie avait souri. « Je suis restée 10 ans avec toi et je ne t'ai jamais vu ouvrir un livre. » « Ah, ce n'est pas vrai. Ah bon ? Nous sommes restés 11 ans ensemble, pas 10. » Après leur séparation, ils ne s'étaient plus adressé la parole pendant de nombreuses années. Tout était apaisé maintenant. Les circonstances douloureuses avaient permis ce rapprochement. Ils reparlaient même du passé avec légèreté. Certes, ils n'étaient jamais d'accord au sujet de leurs souvenirs. Chacun possédait sa version de l'histoire et la vérité devait être perdue quelque part entre les deux. Par exemple, le scénario de leur rencontre était soumis à différentes hypothèses. Selon Marie, Alexis était venu l'aborder lors d'une soirée de la fin de l'été 1997. Pour lui, c'était le contraire. Ce samedi-là, il avait entretenu une sorte de relation exclusive avec le canapé. Quand cette jeune fille était venue s'asseoir à côté de lui, elle avait donc fait le premier pas. « Oui, mais c'est toi qui m'as parlé, » disait-elle. Au fond, tout cela importait peu. Les couples adorent décortiquer les premiers gestes, les premières paroles, les premiers éléments de ce qui sera décisif. On trouve dans cette obsession narrative la petite tragédie suivante. La rencontre ne peut se vivre qu'une fois. On revisite avec les mots le bonheur qui s'épuise. Il y avait une chose sur laquelle ils étaient tous deux d'accord. À un moment de la soirée, on avait entendu retentir de nombreuses sirènes. Un véritable chaos sonore. La fête avait lieu au début de l'avenue Marceau, chez un ami en commun dont les parents étaient aussi riches qu'absents. Pour pallier cette solitude, il organisait souvent des soirées. Par la suite, Marie et Alexis s'étaient interrogés. « Je me demande ce qu'est devenu Thierry. »« Mais il s'appelait Thibault. »« Ah non, ça ne va pas recommencer. » À vrai dire, leur hôte s'appelait Théodore. Peu de temps après, il avait rencontré une Mexicaine et l'avait suivie. On ne l'avait jamais revue. À cette époque, sans les téléphones portables et les réseaux sociaux, se perdre de vue était d'une facilité déconcertante. On baissa le volume de la musique, on tenta de savoir ce qui animait ainsi la ville. Toute cette agitation eut un premier effet majeur. Alexis se leva du canapé. La rumeur d'un accident de voiture se propagea assez vite. Mais pourquoi une telle effervescence ? Tout le monde descendit dans la rue pour se rapprocher de la scène du drame. Les policiers et les pompiers avaient barré la route. La foule agglutinée semblait sous le choc. Certains pleuraient déjà. Alexis et Marie finirent par se prendre la main, sans trop savoir pourquoi, sûrement sous l'effet de l'émotion collective. Sûrement pour s'avouer aussi qu'ils étaient en train de tomber amoureux. Ils n'oublieraient pas l'étrangeté de cet enchaînement. Là, il n'y avait pas le moindre doute. La naissance de leur histoire avait eu lieu au moment précis où la voiture de Lady Diana avait percuté un des piliers du pont de l'Alma.
Ce fut donc le début d'un couple. Marie étudiait le cinéma avec l'ambition de devenir scénariste. Elle passait son temps à ébaucher des histoires, à imaginer des destins joyeux ou abîmés. Religieusement, Alexis écoutait les incessants pitchs de sa fiancée. Dans son esprit, se formait une multitude de films qui ne verraient jamais le jour. Sa cinéphilie était ainsi composée du bouillonnement créatif de la femme qu'il aimait. Plusieurs fois par semaine, ils allaient au cinéma. Si elle était concentrée sur les images, il ne pensait qu'à cette pénombre propice pour caresser sa partenaire. Ils étaient différents, et leur attirance venait précisément de cette différence. Viendrait un temps où ce serait le contraire. Elle aimait sortir avec un garçon pragmatique qui travaillerait bientôt dans une banque. Avec lui, elle se sentait rassurée. L'univers précis d'Alexis lui permettait de divaguer, sans risque, dans le précipice de ses inspirations. Ils finirent par emménager ensemble dans un petit appartement du 11e arrondissement de Paris. La vie heureuse commençait, en quelque sorte. Marie obtint un stage sur un tournage et ce fut comme une révélation. Si elle aimait écrire, elle s'estimait bien plus à sa place sur un plateau de cinéma. Il y a donc un endroit où nous sommes attendus. Elle enchaîna toutes les fonctions, du casting à la régie, de la production au costume. Tout la passionnait, dans une boulimie qui pouvait parfois déconcerter son entourage. Alexis observait la versatilité de sa compagne en se demandant s'il n'était pas trop sage. Marie adorait l'idée de rentrer chez elle et de se retrouver face à quelqu'un qui savait vaguement qui était Anneke. En 2000, elle travailla sur un film intitulé « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en tant qu'assistante à la décoration. Le rôle principal était tenu par une inconnue, Audrey Tautou. Alexis venait parfois le soir à Montmartre et attendait dans un bar qu'elle finisse sa journée. Elle parlait du tournage avec passion, certaine du succès à venir et de cette actrice qui allait être une révélation. Certes, elle avait l'enthousiasme facile. L'été précédent, elle avait été émue aux larmes par une pierre trouvée sur un chemin en Sicile. Alexis progressait au sein de la BNP et s'occupait à présent de ses propres clients. Tout paraissait si simple. Pourtant, quand ils voulurent avoir un enfant, les choses se compliquèrent. Marie ne tombait pas enceinte. Dans un premier temps, les textes ne révélèrent rien d'anormal, ni pour l'un, ni pour l'autre. Aucune trace de stérilité. Y avait-il un blocage? Difficile de savoir. Il faisait l'amour les jours propices, mais aucune grossesse ne s'annonçait. Un soir, Marie eut des nausées. Cela avait été un espoir. En vain. Elle en était profondément minée, hantée même. Après avoir enchaîné de nombreux films, elle se dit qu'il était peut-être temps de faire une pause. Son corps lui demandait sans doute de s'arrêter. Elle se mit à rester des heures au lit ou à se promener sans vraiment savoir où aller. Alexis lui téléphonait pendant la journée, mais les conversations étaient rapides. Elle aimait s'offrir à la solitude. Quand ils faisaient l'amour, ils éprouvaient tous deux une pression. Plus rien ne persistait du simple désir. Ils déposaient dans la jouissance une attente et non plus un relâchement. Toujours rien, inlassablement rien. Les rendez-vous réguliers chez les médecins accentuaient le sentiment de ne plus être un couple, mais un cas d'étude. Ils tentèrent plusieurs fécondations in vitro, qui toutes échouèrent. Quand l'un des spécialistes lâcha le mot « adoption », ce fut un choc. Cela faisait 3 ans qu'ils essayaient de devenir parents. Jusqu'à présent, on leur avait toujours laissé un espoir. Comme la médecine ne semblait pas pouvoir les aider, ils finirent par consulter un psychologue, une thérapeute de couple et même une voyante. Ils eurent l'impression que cette dernière ressentait quelque chose, mais préférait se taire. Qu'avait-elle vu exactement? Le sujet finit par devenir tabou. Il était préférable de ne plus en parler, de se laisser aller au renoncement. Autour d'eux, leurs amis faisaient des enfants. Ils devaient accueillir des nouvelles grossesses successives avec de grands sourires, feindre de ne pas être affectés. Marie vivait comme une agression chaque ventre qui s'arrondissait dans son entourage. Il était préférable de s'écarter de ces relations. Il fallait sortir entre personnes stériles ou non désireuses de procréer. Le couple était tourmenté. Ils se disputaient pour un rien, comme s'il fallait une cause concrète à la souffrance. Marie observait d'autres hommes dans la rue, se demandant si elle serait tombée enceinte avec celui-ci ou celui-là. Ses réflexions divaguaient vers des vies parallèles, dans une obsession confinant au vertige. Alexis appréciait une nouvelle collègue au sein de son service, et il commença à penser qu'un autre destin sentimental pouvait l'attendre quelque part. Il avait déjeuné quelquefois avec elle, sentant bien que la conversation frôlait une forme de séduction. Mais il s'était ressaisi. Il aimait Marie. Il aimait follement Marie. Il l'aimait comme une condamnation. Il ne pouvait pas imaginer se lever un matin sans la regarder se lever. La part la plus importante de sa vie était consacrée à la contemplation de la femme qu'il aimait. En dépit de sa douleur, Marie cherchait la douceur dans sa relation avec Alexis. Des moments de bonheur continuaient d'apparaître dans leur journée, d'une manière surprenante, comme si on les rattrapait par la nuque. Et ils se laissaient aller à ces ravissements. Le jour anniversaire de la mort de Lady Di, ils allèrent en pèlerinage sur le lieu de l'accident. Dans la foule des fans éplorés, ils se tenaient la main, heureux de fêter leur rencontre. Il y avait là presque une indécence à les voir sourire au milieu des tristesses. La princesse, morte depuis 10 ans, était plus populaire que jamais. En cette fin d'été 2007, on avait même fermé le tunnel à la circulation pour laisser les centaines de personnes célébrer cet anniversaire tragique. On entendait, comme chaque fois, la chanson hommage d'Elton John, Candle in the Wind. Après s'être éloignée de l'attroupement, Marie et Alexis avaient décidé de rentrer à pied. Le ciel était lumineux comme une promesse. La soirée prenait l'allure d'une après-midi qui ne voudrait jamais se terminer. Quelque chose de quasi céleste flottait dans l'atmosphère. Une fois rentrés, ils firent l'amour. Pour être plus précis, ils firent l'amour sans penser à cet enfant qui ne venait pas. Fallait-il parvenir à ce degré de relâchement pour que le miracle puisse se produire? Devons-nous complètement cesser d'attendre un événement pour qu'il s'offre à nous? Ces questions n'avaient pas d'importance, il fallait fuir les théories et privilégier la part d'étrangeté en toute chose. Oui, il était préférable de repousser les commentaires pour simplement s'agenouiller devant la beauté inquiétante du miracle. Enfin, Marie tomba enceinte et cela mit fin à sa colère. Elle se sentait calme et impérieuse. Alexis voulait satisfaire le moindre de ses désirs, se mettre entièrement à son service, dans une douce dévotion. Le bonheur était à la mesure de l'attente. Ainsi naquit Clara, le 28 avril 2008, à 8h du matin. Taureau, elle hériterait d'un goût du terrestre modifié par la force d'un ascendant du signe d'eau. Le prénom avait été choisi en référence à un film dont le charme traversait les décennies avec une élégance surannée. Pour le seconder, ils hésitèrent entre Juliette et Madeleine avant d'opter pour Diana. Chaque soir, les parents ébahis s'approchaient du berceau pour admirer ce bébé inespéré. Qu'avait Clara dans la tête pour avoir attendu tant de temps avant d'apparaître? Se refusait-elle au monde? Cela fut une sensation fugitive au départ, mais une certitude finit par troubler Marie. Sa fille ne serait pas une enfant comme les autres.
Oh,
Clara fut élevée comme l'unique citoyenne d'un royaume qui lui était consacré. Ses parents tentèrent d'avoir un autre enfant, mais le propre d'un miracle est de ne se produire qu'une fois. Ainsi, tout tournait autour de cet enfant chéri, sorte de divinité du bac à sable. On ne cessait de lui dire qu'elle était merveilleuse, et en toute honnêteté, c'était vrai. Elle était un mélange de profondeur et d'espièglerie. Marie était souvent en déplacement, sur des tournages, en province ou même à l'étranger. Alors qu'il devait s'occuper de tout, Alexis aimait plutôt ces périodes où il se sentait comme en fusion avec sa fille. Très tôt dans sa vie, il ne savait exactement dater l'origine de ce désir, il avait su qu'il voulait devenir père. Cette évidence le combla au-delà de son intuition, tant il fut ravagé par un amour inconditionnel pour son enfant. Rien ne le rendait plus heureux que de s'échapper d'une réunion et courir pour être à l'heure devant l'école et guetter son élu parmi la foule des cartables. Un peu aveuglé par cette existence qu'il trouvait belle et en laquelle il déposait toute sa confiance, il ne vit pas s'installer l'éloignement de sa femme. Si Marie pensait apprécier le calme de la vie conjugale, c'était surtout par fatigue. Au fond, avec Alexis, elle s'ennuyait. Ce qu'elle avait pu aimer par le passé, son côté prévisible, lui devenait vaguement déplaisant, son côté prévisible. Le temps a souvent cette capacité perverse de pousser vers la laideur ce qui avait valeur de beauté. Elle se souvenait d'avoir pensé un dimanche où ils se promenaient tous les trois au bois de Vincennes. « Je préférerais être seule avec ma fille. » Clara avait 10 ans et le trio ne fonctionnait plus. Bien sûr, Marie rencontra un autre homme. Il lui fallait vivre la preuve de ce qu'elle éprouvait. Elle fut séduite par un Franck qui travaillait à la régie sur son nouveau tournage. Le genre d'homme qui dort 2 heures par nuit en clamant que ça lui suffit. Le genre aussi qui dit à midi qu'une petite bière ne serait pas de refus. Un mec serviable, drôle, bref, le genre que tout le monde aime sur un plateau. Il évoqua l'appartement qu'il louait à 20 minutes de là. Il pouvait y aller maintenant, si elle le désirait. Une fois sur place, elle prit son téléphone et constata les 2 appels en absence d'Alexis. Elle se focalisa un instant sur le symbole de cette expression « en absence ». Elle s'excusa en premier lieu auprès de la costumière qui s'était inquiétée, avant de simplement répondre au père de Clara « Ne m'en veux pas, je ne rentre pas ce week-end ». Marie ne se laissa pas par hésiter, ni par la culpabilité, ni par les appels d'Alexis. Il n'avait pas dormi de la nuit, hébété par son message. Au petit matin, ne sachant que faire, il avait mis Clara devant un film. Forcément, Marie était avec un homme, mais que vivait-elle ? Une passade ? Et dans ce cas, fallait-il l'accepter ? Ou s'agissait-il d'une véritable rupture ? Tout cela était si soudain et si brutal. Il lui en voulait de ne pas donner la moindre explication, de ne simplement pas penser à la douleur de l'autre. Mais il y a probablement un moment où l'urgence du bonheur anéantit tout sur son passage. Marie resta au lit avec Franck une grande partie du samedi, heureuse dans l'audace érotique. Ils finirent par sortir pour aller manger. Ils mouraient de faim. Elle ne pouvait rien avaler. Elle téléphona enfin à Alexis pour lui dire qu'elle était désolée. Elle lui expliquerait tout plus tard. Pour l'instant, elle voulait simplement parler à sa fille. Elle s'était mise à l'écart pour passer cet appel, ne voulant pas que son amant l'associe aussitôt à son rôle de mère. Au cœur de cette journée barricadée par le plaisir, il ne fallait pas faire entrer le monde extérieur. Il voulait continuer à se baigner dans la lumière inédite de leur rencontre. En tout cas, c'est ainsi que Marie vivait la situation. À vrai dire, elle ne savait pratiquement rien de Franck. Entre deux tournages, il lui avait dit aimer retourner sur la côte basque. C'était là qu'il vivait, surtout pour s'adonner à sa passion du surf. « Tu m'emmèneras ?» avait fini par dire Marie, d'une manière anodine. Et cela avait été perçu comme la demande discrète d'un gage à venir. Il avait répondu « oui » avant de passer à autre chose. On sentait chez lui ce goût totalitaire du présent. Il fallait se concentrer sur le maintenant, et uniquement le maintenant. C'était à la fois joyeux et effrayant. Le lundi matin, ils rejoignirent l'équipe du film. Malgré le manque de sommeil, Marie se sentait pleine d'énergie. La rumeur de leur liaison ne tarda pas à se répandre. Il suffit de voir La Nuit américaine de François Truffaut pour comprendre à quel point il n'y a rien de surprenant à ce que naissent des histoires sentimentales pendant les tournages. Marie finit par préciser à Alexis ce qu'elle vivait. « Pardonne-moi, je sais que mon comportement a été horrible, mais je n'arrivais pas à mettre des mots. » Elle raconta tout en détail. Pourquoi ? Ce n'était pas vraiment une question d'honnêteté. Elle aurait pu vivre son aventure et s'interroger plus tard sur son couple. Elle ne s'en sentait pas capable. Elle avait besoin de clarté, de radicalité même. Les choses avaient été foudroyantes de simplicité. À l'instant précis où elle avait suivi Franck dans le jardin, elle avait compris qu'elle n'aimait plus Alexis et qu'elle ne l'aimait plus depuis longtemps. Elle n'était donc pas partagée entre deux vies. Elle en quittait une avec soulagement pour en découvrir une autre. « Cela fait un moment que ça ne va plus. Nous cohabitons », avait-elle ajouté. Alexis ne reconnaissait pas leur vie dans cette analyse. Il n'arpentait pas le même territoire émotionnel. Dans ce qu'elle estimait être une routine, il voyait, lui, la beauté stable de la vie à deux. Plus tard, il y repenserait forcément. Et il maintiendrait sa version. Jamais auparavant, Marie n'avait laissé entrevoir sa lassitude d'eux. Parfois, elle était fatiguée ou agacée. Mais cela arrivait dans tous les couples. Selon lui, c'était bien l'intrusion d'un corps étranger qui avait tout fait exploser. Néanmoins, il comprit immédiatement qu'il était inutile de lutter. Marie aurait-elle aimé qu'il se mette à hurler, à crier sa souffrance? Aurait-elle voulu qu'il dérape enfin, quittant son tempérament trop prévisible? Non, elle était soulagée qu'il semble accepter la situation et la libère sans hystérie malgré sa douleur. Alexis se plongea dans le travail et s'occupa parfaitement de Clara. Parfois, il trouvait que sa fille ressemblait bien trop à sa mère. Il se cachait alors un instant pour pleurer.
Ce fut la fin du tournage. Marie retrouva le domicile conjugal. Elle ouvrit fébrilement la porte pour découvrir Alexis en train de jouer avec Clara. Elle eut l'impression de gêner ce monde qui, en quelques semaines, s'était habitué à vivre sans elle. Pourtant, dès que la petite fille vit sa mère, elle se précipita dans ses bras. Dans un mouvement de balançoire, Alexis quitta l'appartement sans dire un mot. Leur histoire se résumerait à présent à des questions de logistique. Qui déménagerait en premier? Quel serait le mode de garde de Clara? Ainsi de suite. Marie n'avait pas la force de réfléchir. Il lui était impossible de cacher son désarroi. Elle restait des heures devant son téléphone, attendant un signe de Franck, tout en regrettant d'infliger cette mascarade sentimentale à Alexis. « Si tu dois vivre quelque chose, c'est hors de ma vue », avait-il fini par dire. C'était plus fort qu'elle. Elle traquait Franck sur les réseaux sociaux, cherchant à déceler dans le moindre like la preuve de son rejet. Elle guettait toute nouvelle amie en y voyant une rivale. Inquiète de son apparente déprime, sa cousine, dont elle était très proche, lui avait proposé de passer quelques jours chez elle. Marie dormait à peine, ne tenait plus debout et se sentait coupable de ne plus pouvoir s'occuper de Clara. Elle voulait rejoindre Franck, tout en sachant que si elle débarquait à l'improviste, ce serait un point de non-retour. « Je ne supporte pas les intrusions », avait-il clamé plusieurs fois. Il lui écrivait parfois un message, disant à quel point elle lui manquait. Elle reprenait espoir. Mais il repartait aussitôt vers le silence, des silences de plus en plus longs. Il n'évoquait même plus la Corse. Elle devait trouver la force de tourner la page, d'avancer. Marie ne cessait de se dire « quelle conne, comment ai-je fait pour y croire ?» Elle riait nerveusement de sa naïveté. Seule certitude, la rencontre avec Franck lui avait permis d'acter son désamour pour Alexis. Quand elle eut repris quelques forces, elle quitta le cocon que lui avait offert sa cousine et finit par louer un petit appartement où elle pourrait accueillir sa fille une semaine sur deux. En rangeant ses vêtements, elle retrouva le jean qu'elle avait troué lors de sa première fois avec Franck. Elle fixa la déchirure pendant de longues minutes, comme si tout ce qu'elle avait vécu se résumait à cette simple image. Elle avait hésité à lui envoyer une photo de ce souvenir, mais à quoi cela servait-il? Depuis des semaines maintenant, Franck ne lui écrivait plus. Elle l'avait finalement bloqué sur son téléphone et les réseaux, comme pour acter par elle-même ce qu'elle subissait.
Comme tous les enfants modernes, Clara ne sembla pas franchement affectée par la séparation. C'était dans l'ordre des choses. Elle s'accoutuma à un nouveau rythme, une semaine avec sa mère, une semaine avec son père, et finit par trouver sa vie presque mieux équilibrée ainsi. Elle passait d'une éducation à l'autre en douceur. Marie aurait voulu rester en bon terme avec Alexis. Elle adorait leurs conversations. Il avait toujours été doux et bienveillant, mais pour lui, la confiance était brisée. À vrai dire, il aimait encore beaucoup trop pour tolérer une relation censée être amicale. Quelques mois plus tard, il rencontrerait une femme lors d'un séminaire. Elle travaillait dans le même groupe que lui. Ils parlaient une langue commune. Il pensait à Marie, encore et toujours à Marie. Il arpentait fiévreusement le royaume de leurs souvenirs, un royaume subitement teinté de perfection, comme si le temps éradiquait les errances affectives pour ne laisser place qu'à une narration choisie, celle de la joie. Il se réveillait parfois la nuit en revivant le bonheur effrayant de certains hivers. C'était une douleur presque insoutenable dans la poitrine. Marie adorait renifler son cou le soir juste avant de dormir. Cette étrange pratique qui l'avait souvent gênée lui manquait à en crever maintenant. Il avait la conviction que jamais il ne pourrait ressentir la même chose pour une autre femme. Marie demeurait à ses yeux la définition même, le nom du sentiment amoureux. Les années passèrent et la tension au sein de l'ancien couple restait intacte. Il semblait peu envisageable de passer à nouveau des moments à trois. C'était la seule chose qui manquait à Clara, cette mythologie des parents réunis. Elle se sentait proche de chacun d'eux pour des raisons différentes. Son père était doux et prévisible, sa mère avait davantage de folie en elle, mais une folie amusante.
Alexis pouvait se l'avouer. Il préférait les semaines qu'il passait avec sa fille. Elle venait d'avoir 16 ans, elle était pleine d'énergie, prenait des cours de chant et rêvait de participer à l'émission The Voice. Elle composait des chansons dans sa tête, rêvait en mélodie. Quand elle invitait des amis, le salon devenait le théâtre de chorégraphies improbables et joyeuses. Le papa applaudissait le moindre déhanché, s'extasiait sur des mouvements saccadés, faisait mine d'apprécier des sons qu'il aurait détestés partout ailleurs. Alexis ne cessait de voir encore la petite fille dans l'adolescence en face de lui. Depuis toujours, il filmait les mini-spectacles qu'elle composait pour lui. Après l'accident, il passerait des heures à revoir les images dans une insoutenable rétrospective. Régulièrement, il fallait emmener Clara à toutes sortes de concerts. Si Alexis ne consentait pas encore à la laisser seule, il lui arrivait d'attendre dans un bar en face de la salle. Il buvait des bières pendant qu'elle s'amusait. Elle en ressortait survoltée et lui titubait. Ses copines trouvaient qu'elle avait de la chance d'avoir un père aussi cool. Elle ne démentait pas cette contre-vérité risible. Sur le trajet du retour, Clara évoquait sa soirée avec passion. Elle partait dans de longs monologues. Alexis se concentrait, hochait la tête pour faire semblant de suivre, alors qu'il ne comprenait pas un mot sur trois. Les semaines sans elle, il entendait encore sa voix résonner en lui. Depuis quelques jours, elle ne cessait de lui parler du concert de Björk, qui aurait lieu devant le château de Versailles. Il était heureux et fier qu'elle écoute cette chanteuse qu'il lui avait fait découvrir en précisant « À un moment de ma vie, j'ai adoré tout ce qui avait un lien avec l'Islande. » Clara s'était montrée surprise qu'il puisse aimer ce genre de musique. On aurait dit quelqu'un de normal qui cherche à paraître original. Cela sonnait un peu faux. Son père, jugeait-elle, avait davantage une tête à aimer les Beatles, un peu comme tout le monde. Alexis faisait mine de s'offusquer de ce manque de confiance musicale et ajoutait qu'il appréciait non seulement les chansons de Björk, mais aussi son incroyable personnalité. Quoi qu'il en soit, il se réjouissait de la découvrir enfin en concert. Il serait également accompagné de Lola, la meilleure amie de Clara. Les deux filles étaient inséparables depuis la plus petite enfance, si collées l'une à l'autre qu'il était parfois difficile de savoir où s'arrêtait Clara et où commençait Lola. Cette soirée s'annonçait merveilleuse.
La soirée s'annonçait merveilleuse, mais le sera-t-elle? Nous vous invitons à poursuivre cette lecture qui réserve bien des surprises. Cet ouvrage, Tout le monde aime Clara, est le 21e roman de David Foenkinos, imprimé chez Gallimard en janvier 2025. Les lectures étaient assurées par Monique et Annie, la partie technique par Claude Michel. La musique est de Björk, Venus as a Boy. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G 101.5 FM.
Sonia, ça y est, on connaît la date de la finale de Radiovision.
Encore heureux, parce que c'est samedi 14 juin à 19h sur cette antenne.
Et tu sais qui gagne?
Ah ben non, on va le découvrir en direct avec vous. C'est le public et le jury qui décident. On ne sera donc que samedi qui gagnera Radiovision 2025.
Alors rendez-vous samedi 14 juin à 19h sur radiovision.fr.
Shadow, it gets and there's me, yeah. Whatever tomorrow.